C'était avec podcast que Derviches Tourneur.
Oui, et non avec podcast. Comme des fois, on entend ministre.
Même si je le sais, il ouais. faut que je le lise.
Faut le prononcer que... jusqu'au bout.
Exact.
Merci, Mathieu. Derviche Tourneur, tout un titre et toute une chanson. Julien Caillouette, on aime ça un petit peu pour vous parce que quelquefois, vous travaillez avec votre casque et quelquefois sans casque. Ça va bien, Julien?
Oui, très bien, merci.
Oui, Julien, vous êtes rédacteur en chef chez Franco-Presse. Et d'ailleurs, vous commencez par une nouvelle issue de Franco-Presse à propos d'un programme de contestation judiciaire.
Oui, on parle ici du programme qui permet des individus et des organismes d'avoir accès à du financement pour défendre des causes judiciaires qui concernent les droits de la personne ou les langues officielles. C'est un programme qui a été créé depuis... En 1990, approximativement, il a servi plusieurs fois à la francophonie canadienne pour obtenir ses droits en question de langue, mais c'est un programme qui n'est pas protégé vraiment. Plus récemment, quand Stephen Harper était premier ministre du Canada, il n'avait pas nécessairement coupé le programme, mais il l'avait amputé sévèrement, qui n'était plus aussi utile, on pourrait dire. Les libéraux, quand Justin Trudeau a pris le pouvoir, ils l'ont réinstauré assez rapidement, là, mais ça a pris un peu de temps avant qu'ils se remettent en branle, mais qui fonctionne en ce moment. C'est géré par l'Université d'Ottawa. Mais il y a un projet de loi, le projet de loi C-316 en ce moment, qui est devant un comité, il a passé la deuxième lecture, qui vise à pérenniser ce programme-là, c'est-à-dire vraiment l'enchâsser dans une loi que les gouvernements ne puissent plus le couper aussi facilement que ça a été possible par le passé. Il y a des le bloc ne s'y oppose pas, mais que considère quand même certains points sur pour défendre les intérêts du Québec là-dedans comme ils le font. De son côté, l'organisme Droit collectif du Québec, lui, est précis justement qu'il aimerait que le programme soit sujet à une meilleure édition de compte, c'est-à-dire qu'on sache mieux combien ça coûte pour défendre les causes, quelles causes on choisit, pourquoi il y en a qui sont choisis, pourquoi il y en a qui sont pas retenus. Puis, il désire aussi que la loi précise qu'elle ne peut pas être utilisée pour contester les lois provinciales. On en a parlé avec un avocat qui est spécialisé en droit de... En droit des langues officielles, François Larocque, qui lui dit qui rappelle que la clause dérogatoire, ce qu'on appelle souvent la clause non-obstant, sert justement à ça, à protéger les lois provinciales qui ne peuvent pas être contestées, même à travers ce programme-là.
Vous poursuivez avec une nouvelle issue de Moniteur acadien. Je ne connaissais pas ça, Moniteur acadien. Est-ce que c'est un site ou un journal?
C'est les deux. C'est un petit journal dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, comme en face de l'île du Prince-Édouard.
OK. Et dans ce site et ce journal, on parle de Beau-Soleil, qui est la première municipalité francophone à franciser ses panneaux routiers au Nouveau-Brunswick.
Oui, c'est une nouvelle. Comme je ne m'attendais pas à lire cette nouvelle-là, mais on sait que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue, mais je me suis jamais arrêté à penser à leur arrêt stop, comme on pourrait dire. Mais depuis 2019, il y a une politique qui est passée au niveau provincial qui permet aux municipalités où les Acadiens ou les francophones sont majoritaires de prioriser l'affichage en français. Fait que la semaine dernière, plusieurs panneaux, et là c'est une trentaine de stops ou d'arrêts stops de la ville de Beausoleil ont été changés. Donc on a enlevé le panneau qui est écrit stop arrêt, puis on l'a remplacé par un panneau où c'est écrit arrêt stop. C'est la première fois en province qu'on peut faire ça, qu'on se prévaut de cette loi. Cette politique adoptée en 2019, le directeur de la municipalité, Mathieu Gérald Casey, a travaillé fort. Il a talonné le gouvernement pendant un an et demi pour y arriver, pour avoir toutes les autorisations, les permissions, les documents pour mettre ça en place. Et bon, il trouve que c'est un peu un geste historique. Il reste à voir s'il y a d'autres villes dans ce coin-là et dans la péninsule acadienne, plus au nord, qui vont faire la même chose.
Et une bonne nouvelle pour les familles qui ont un enfant autiste en milieu minoritaire, un nouveau livret pour les outiller.
Ça nous vient du Saint-Jeanois, un autre journal. Là, celui-là, c'est à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, qui est situé. Ils nous disent que l'Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean, en collaboration avec Famille et Petite Enfance francophone Sud, ont entrepris la création d'un livret d'accompagnement spécial conçu spécifiquement pour les familles francophones qui ont un enfant qui est autiste. Le projet, ils ont eu du succès avec un guide similaire destiné aux employés anglophones dans des foyers qui doivent prendre soin de patients francophones. Donc, une façon de contrer un peu la barrière de la langue, ce qui peut arriver au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada. Donc, ce guide-là a bien fonctionné. Donc, on a décidé d'en créer un pour les familles qui ont des enfants autistes. L'objectif du guide, c'est de fournir des conseils pratiques et des stratégies pour mieux comprendre et accompagner les enfants qui vivent avec sous le spectre de l'autisme. Puis on met l'accent sur des ajustements apportés, des astuces utiles, des approches adaptées pour faciliter la communication, puis favoriser les réussites, puis célébrer les progrès. C'est très important avec ces enfants-là.
Une nouvelle maintenant du Franco-Alberta vers une éducation post-secondaire durable en français.
Je vous rappelle, c'est ça, il y a le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta qui a été dans les nouvelles il y a quelques années, un peu près en même temps que la crise de l'Université Laurentienne ici à Sudbury. Là, le gouvernement albertain avait annoncé qu'il coupait beaucoup dans le financement de ces universités. Ça avait affecté le campus Saint-Jean, qui est la seule institution postsecondaire francophone en Alberta. Continuent leurs efforts pour assurer leur avenir. Ils veulent créer des partenariats avec les conseils scolaires francophones, avec le réseau d'écoles d'immigration française. Ils veulent aussi élargir l'offre de cours qu'ils ont, et recruter à l'international aussi. C'est un combat de tous les jours parce qu'il y a des... ils ont eu droit il y a quelques semaines à un rapport de chercheurs de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, l'université francophone là-bas, qui démontre qu'il y a relativement peu d'élèves manitobains qui étudient en français de la maternelle jusqu'à la première année universitaire. Donc, il y en a plusieurs, j'ai vu d'autres études aussi dans le passé qui disent qu'il y en a qui abandonnent en cours de route. Des fois, c'est une plus grande partie de jeunes qui vont faire leur secondaire en anglais après avoir fait le primaire en français. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour ça, mais il y a aussi une baisse vers la fin du secondaire, 10e, 11e, 12e année, et à l'université, il y a moins de jeunes francophones qui continuent d'étudier en français. Puis les indices laissent croire que c'est la même chose. C'est pas juste, même si la recherche a été faite au Manitoba, il y a des indices qui disent que c'est la même chose ailleurs. En Alberta, il nous donne l'exemple que le nombre d'élèves en français dans les écoles primaires et secondaires est passé, entre 1984 et 2024, c'est passé de 370 à 9540 jeunes. Donc, c'est une grande augmentation. Mais cette augmentation-là ne se reflète pas au campus Saint-Jean. Donc, il n'y a pas eu la même proportion d'augmentation. Et donc, on veut travailler fort pour avoir comme objectif d'atteindre 1500 à 2000 étudiants au campus Saint-Jean d'ici quelques années.
On leur souhaite. Il n'y en aura pas de facile, comme dirait l'autre, pendant que la communauté se mobilise pour sauver leurs émissions en français de la Louisiane.
Oui, ça, j'ai trouvé ça sur le site de le Louisianais, le journal francophone là-bas, mais c'est un site web, c'est pas un journal, mais disons leur média francophone de la Louisiane. Mm-hmm. La communauté francophone Cajun, les Créoles et les Amérindiens se sont mobilisés partout dans l'État pour sauver le financement de la programmation télévisée en français en Louisiane. Mais oui, il y en a. Le financement de l'État avait permis la création de deux émissions qui étaient diffusées sur le Louisiana Public Broadcasting, qui est la chaîne publique de la Louisiane. Le Parlement donc réduit le budget de production pour l'année à venir. Les conséquences de ça, c'est que ça fait perdre d'autres subventions. Ils n'ont plus assez de fonds pour produire les émissions qu'ils produisaient. Les deux émissions, c'est un dessin animé, ça s'appelle Les Aventures de Boudini et ses amis, qui était la première série de dessins animés en français faite en Louisiane pour la Louisiane. Il y avait une autre série d'actualités documentaires qui s'appelait La Veillée, c'est ça, c'était juste La Veillée, le nom, Il y avait quand même 10 millions de téléspectateurs dans le monde qu'on a enregistré. Là, ça a été diffusé,
c'est,
je me souviens.
Le...
Oui, puis je me souviens, le dessin animé, là, j'avais vu des articles là-dessus quand c'était sorti. Là, ça
avait, les aventures de Boudini?
Exactement. Puis c'est en partie en créole louisianais, comme si on l'écoute, on peut comprendre, mais il faut porter attention. Bref, la décision n'était pas encore prise. Ça va être pris cette semaine. Donc, il va falloir suivre, voir s'ils vont vraiment perdre leur financement ou non.
Ah, ce serait dommage. Et hier, c'était l'anniversaire de naissance des sœurs Dionne.
Oui, je me souviens, je vous en ai souvent parlé quand j'étais voyageur. On a fait un article à Franco-Presse aussi. C'est un article qu'on a fait par semaine qui revient plus sur des faits historiques. Et là, on a... Comme vous dites, puisque les jumelles Dionne ont eu 90 ans. Hier, on est revenu sur la naissance et la vie de ces cinq franco-ontariennes qui sont à Corbeil, un petit village à côté de Normanby le 28 mai 1934.
Il en reste combien de vivantes, Julien?
Il en reste deux, Annette et Cécile, qui, à ma connaissance, demeurent. Cécile demeure à Montréal, si ma mémoire est bonne. Annette, je ne suis plus certain. Je sais que la ville de Normanby a organisé quelque chose hier, puis que Cécile était supposée y aller, mais j'ai rien vu dans les médias sociaux si elle avait pu s'y rendre ou non. Des fois, il y a des.
Mais ça aurait été bien qu'elle soit avec sa sœur cette journée-là.
Oui, je crois que Cécile est celle qui est plus en forme. Je pense qu'elle était peut-être. Mais c'est que la ville voulait vraiment faire quelque chose de gros. Il y a quand même un groupe là-bas. Il y a encore le musée des jumelles Dionne et leur maison. La maison où ils sont nés et a été déménagée sur le bord du lac. Là. Ça fait partie des expositions d'un musée là-bas. Donc, on voulait faire quelque chose de gros, mais c'est déjà arrivé qu'elle devait venir. Puis, question de santé, elle n'a pas pu se rendre à la dernière minute. Donc, là, je ne le sais pas, mais bref, c'était leur anniversaire
bon.
Hier.
Quelque chose de gros et de respectueux, j'espère, parce qu'elles ont été traitées pendant des années comme des bêtes de foire, là, exploitées au maximum.
Exactement. Puis d'ailleurs, ils ont poursuivi le gouvernement qui leur a donné beaucoup d'argent, mais même ça n'a pas réglé tous les problèmes. Il y avait une des sœurs qui s'est fait voler son argent par ses enfants. Ils n'ont pas eu une vie facile.
Non, triste destin. Julien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonne semaine.
Merci à vous aussi.